Salut les joueuses et salut les joueurs. Nous sommes en mars 2018 et vous écoutez l'épisode 95 chronique de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Dédé Schutz et ce mois-ci, je suis avec la printanière Polgara. Salut Polgara.
Bonjour Dédé. C'est mignon, printanière.
C'est printemps. Bah, on est juste après le printemps.
Oui. T'as, alors,
Tu es entré dans... dans une nouvelle année.
C'est plus trop le printemps de mon côté, ça commence à se rapprocher de l'automne, j'ai l'impression.
Mais non, il ne faut pas dire ça.
Donc, oui, mais il y a trois jours, il y avait encore de la neige, donc j'ai un peu de mal à croire que c'est vraiment le printemps. Donc, il fait quand même 2 degrés le matin.
Si t'as 2 degrés, c'est bien. Moi, j'avais moins 5 encore ce matin.
Oui, mais ça, c'est parce que toi, t'as fait le choix de vivre dans des contrées, tu sais. In the north, un peu.
Voilà.
Non, in the east.
In the east, voilà.
Voilà, donc, toi, t'as su, mais moi, normalement, je suis dans un climat purement océanique, donc, il ne doit pas faire ce temps-là en mars, c'est interdit.
Ah, c'est interdit. Bon, j'ai encore de la neige, là, par la fenêtre, qui n'a pas totalement fondu.
Ouais.
Bon, on se fait des grands écarts, entre le moins 15 et le 15, d'une semaine à l'autre, c'est assez violent.
Oui, en plus, je sais pas si toi, mais moi, je travaille dans un endroit surchauffé où il fait à peu près 25 degrés toute la journée, donc on a des chocs thermiques en permanence. Donc, je pense qu'ils essayent, c'est une sorte de sélection naturelle pour se débarrasser des salariés, tu vois, ils espèrent nous tuer comme ça. Et on résiste quand même.
Bah, voilà.
Eh bien, merci à la boutique Philibert de nous aider à réaliser ce podcast. Philibert, c'est une boutique à Strasbourg et surtout une boutique en ligne qui vous propose toute une sélection de jeux de société sur philibernet.com. Et un grand merci à nos tipeurs de soutenir ce podcast. Et aussi merci à la famille Blue pour son don en nature.
Et merci à Monsieur Krisk pour son gros don PayPal aussi. Alors, on va commencer ce podcast par les habituels... commentaire sur l'épisode précédent.
Oui.
Donc on a eu un commentaire sur Facebook, parce que oui, on pouvait aussi nous laisser des commentaires sur Facebook.
Bah, nous sommes partout en fait. Hein.
Voilà, on est disponible partout. De Virgile Deray qui nous dit qu'il a bien apprécié nos propos sur la place de l'enfant et la place du jeu dans notre dernier podcast.
Qui faisait écho à la chronique d'Acariâtre. Et donc il a trouvé ça manifestement intéressant et puis il a trouvé que l'épisode dans son ensemble était impec, donc ça fait plaisir. C'est le moment où on se passe un peu de pommade avec Dédé, c'est un petit moment pour nous booster là, on se fait un peu plaisir. Donc,
Faut pas leur dire ça, après ils vont nous laisser des commentaires désagréables.
Ah oui, non, mais là, ils savent pas de ce dont on est capable s'ils font ça, donc on les retrouve on a vos IP.
Et on avait aussi un commentaire de Tuin.
Dédé, tu le fais exprès, provocation.
Bien sûr que je l'ai fait exprès.
This is not a method, this is provocation. Alors, ça, on ne dit pas Tuin. Peut-être en Alsace, mais sinon, on dit Twin, il nous l'a bien précisé, donc il va falloir faire des efforts.
Twin, ok.
Twin,
mais alors, est-ce que
comme Twinit un peu.
Ouais, mais alors il devrait mettre des trémas sur le i, plutôt que, parce que là, moi, je lis Tuin, tu vois.
Ouais.
Écoute, donc, mets des trémas sur le i et je dirais Twin.
Oh là là, écoute, non, on peut faire l'effort de dire Twin quand même.
Ouais, c'est vrai qu'il nous laisse beaucoup de commentaires, il nous alimente bien en commentaires, donc je vais faire un peu un effort pour Twin, tu vois.
Voilà.
J'ai bien dit.
Et ouais, et dans ses commentaires, donc il revenait un peu sur les chroniques et il trouvait, enfin dans l'ensemble, il avait l'air assez content du contenu. Mmh. Et il rebondissait aussi sur nos pronostics pour l'As d'or du Festival de Cannes 2018. Et donc, il vantait les mérites de Terraforming Mars, hein, puisque il disait que c'était un jeu qui était vraiment ce qu'il qualifiait de easy to learn, hard to master. Donc c'est pas, ça ferait presque titre de film un peu, vous savez, Crouching Tiger, Hidden Dragon, ça fait un peu ça. Mais pas du tout, puis c'est-à-dire qu'en gros c'est un jeu facile à apprendre et pourtant très dur à maîtriser, qui disait que c'était sûrement une clé de son succès. Et puis aussi, il s'interrogeait sur le thème du jeu, donc
la conquête martienne.
Ouais, la conquête de la planète Mars, etc. Et sur le fait que c'était pas un thème qui avait été tellement abordé avant, enfin c'était pas le thème de prédilection. Enfin, on a eu une grosse mode zombie, on a eu beaucoup de medfan, beaucoup de vikings. Et puis là, on arrivait un petit peu dans cette thématique-là qui ressortait dans plusieurs jeux.
Ouais, on disait que les jeux sur l'espace ça marchait pas trop à un moment donné, mais là faut croire que si ça marche quand même. Faut juste que ce soit bien adapté, quoi.
L'espace et puis un peu une dominante scientifique, puisque même sans que ce soit forcément science-fiction ou conquête spatiale, là on a d'autres jeux qui peuvent se rapprocher par une thématique plus scientifique. Que ce qu'on voit régulièrement.
Oui, c'est vrai que c'est un peu plus scientifique avec évolution, photosynthésis, des choses comme ça. Les thèmes, c'est vraiment des thèmes plus scientifiques. Enfin, on vous laisse lire son long commentaire sur notre site. Et on va passer à 2-3 actus.
Tout à fait. Donc on parlait du festival donc international des jeux de Cannes qui a eu donc lieu fin février. Donc quand on avait enregistré la chronique précédente, le palmarès n'était pas connu, mais notre émission a été diffusée le lendemain du palmarès. Vous voyez le timing de malade. Mmh. Et donc on s'était livré un petit jeu de peu pronostic. Et écoutez, voilà, chapeau bas à Dédé qui a fait un sans faute.
Voilà. C'est un peu le renouveau après Olivier et Jérémy qui avaient toujours tout faux. Moi j'ai tout juste alors pour cette année. J'espère faire aussi bien l'année prochaine.
Attention, on va t'appeler le Omar Sharif du jeu de société. Voilà. Pour les paris.
L'As d'or, c'est mon dada et tout.
Voilà, c'est un peu ça. Donc pour vous rappeler, les vainqueurs sont Azul pour le jeu famille, donc ça on avait bon tous les deux. Ouais. Expert, Terraforming Mars dont on vient de parler, donc pareil, on avait bon tous les deux. Et pour les jeux enfants, on avait une petite divergence d'opinion. Donc moi j'avais voté Boom et tu avais voté Nom d'un renard, et bien c'est Nom d'un renard qui a gagné. Sachant qu'on avait joué à aucun des deux jeux quand même.
Donc oui, c'est ça.
Tu es d'autant plus clairvoyant.
Non, mais le renard, j'ai l'impression que ça marche bien pour les jeux enfants.
Oui, parce qu'il y avait
Il y avait déjà Maître Renard.
Oui. Ouais, donc,
donc là, c'est Nom d'un renard.
Là, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai qu'il y a une sorte de continuité dans le thème là aussi.
Voilà. C'est peut-être pour faire la guerre au jeu de moutons. Je ne sais pas. Sinon, j'avais noté une autre actu qui est arrivée juste après aussi le Festival international des jeux de Cannes, et qui a sûrement été en tractation et signé lors du Festival de jeux de Cannes. C'est Monsieur Fall qui quitte Trick Track.
Oui.
Alors bon, c'est pas pour tout de suite, il reste encore jusqu'en 2020 pour faire la transition. Mais il a annoncé donc sur Trick Track qu'il avait vendu la société Flat Prod qui gérait Trick Track à Sophie Gravel. Donc c'est la
nouvelle présidente du coup de Flat Prod. Voilà. Et elle est actuellement la. Alors je sais pas quel est le statut exact. Enfin en tout cas c'est la boss de Plan B, qui est une ancienne de Philosophia. Enfin elle vient de Philosophia. Et donc, ça a suscité quand même pas mal. Enfin, c'était pas mal de questions. Bah, apparemment, il avait déjà annoncé plusieurs fois qu'il voulait arrêter, etc. Donc, c'était pas complètement non plus une immense surprise. Mais je pense qu'on s'attendait pas forcément à ce que ça se concrétise de cette manière. Je pense que c'est un sujet sur lequel on reviendra dans d'autres émissions quand on aura aussi un peu plus de recul sur le futur. Enfin, ce qui va se passer dans l'avenir.
Ouais, bien sûr. Bah, moi, je note quand même que c'est une femme influente en plus dans le monde du jeu, avec Nadine Seul qui gère le festival du Fige, voilà. Et donc, oui, c'est vrai que je pense qu'au bout de 18 ans, il peut quand même peut-être passer à autre chose. Ça doit. Être...
Bah oui, puis je pense que t'as aussi un moment où tu risques de tourner un petit peu en rond, ouais. Mais on a tous besoin, on sait que on a
une
souvent besoin, ouais, t'as une lassitude et puis tu fatalement t'es moins créatif parce que t'es plus dans une forme de routine, donc les choses peuvent être un peu plus pesantes et mais bon, ouais. il va assurer la transition, un peu comme enfin on voit bien que c'est son bébé, il peut pas le laisser comme ça. Il va permettre aussi aux nouvelles équipes, enfin la nouvelle équipe dirigeante, de bien prendre la mesure de ce qu'ils ont entre les mains et de voir de les accompagner pour parce qu'il y aura sûrement des évolutions dans ce qu'est aujourd'hui Trick Track.
Ouais, bah oui, je pense. Donc oui, on en reviendra sûrement dans nos hors-séries cet été. Voilà, où on pourra en débattre un peu plus. Et une autre nouvelle que j'ai vu passer sur Twitter. C'est Asmodée qui lance une nouvelle filiale. Alors après avoir racheté tout le monde, il lance Asmodée Entertainment pour faire des films, des BD, des séries, des produits dérivés, voilà, à partir de
des
licences de leurs jeux de société, quoi. Ouais. Donc on aura bientôt un film double, un jeu TV The Iceland. C'est un peu le nouveau Koh-Lanta, tu vois.
Voilà, ils vont pouvoir. Ouais, après, je suis bon.
Il y a plein de. Bah, pour réutiliser les thèmes de leurs jeux de société dans divers. Dans des BD. Je pense qu'après, il y a certains univers qui doivent bien se prêter à faire de la BD autour de l'univers.
Alors après, j'ai envie de te dire, je pense qu'il faudra que ce soit vraiment bien fait. Parce que le risque, c'est un peu de tirer sur la corde et de pas forcément produire de la super qualité. Enfin,
oui, c'est ça.
Je suis un peu dubitatif, j'avoue.
Mmh. Ouais, c'est sûr que quand on voit comment les jeux vidéo qui sont les films tirés des jeux vidéo s'en sortent, quand on voit le genre Street Fighter, comment ça a été mauvais, quoi.
Ouais, mais il y avait Resident Evil, c'était pas, dans mon souvenir, c'était pas extraordinaire. Lara Croft plus, c'était pas.
Bah, j'avais entendu une étude du Monde comme quoi ils avaient fait la moyenne des films tirés de jeux vidéo, et seulement le quart des films, ils ont la moyenne, quoi. Donc c'est pas. C'est pas glorieux, quoi.
Non, c'est. Et je crois d'ailleurs que, enfin, il y a des exceptions, hein, bien évidemment, mais je crois aussi que souvent les jeux vidéo tirés de films sont pas toujours extraordinaires non plus.
Oui.
Peut-être, il faut savoir un peu plus cloisonner finalement les médias pour se concentrer sur. Non, je crois. Bon, il y a des exceptions, hein, bien sûr. Là, comme ça me vient pas à l'esprit, mais je sais que pour avoir fait une liste, tu trouves quand même quelques trucs pas mal. Mais c'est vrai que moi je suis un peu dubitatif sur ce que ça va donner, comment ça va être exploité, que ça fasse, que ce soit pas non plus.
Bah, il y a déjà les mondes de Luma qui commencent à faire donc des gammes, une gamme de jeux avec plusieurs jeux qui sont dans le même univers, qui sont liés entre eux. Et du coup, si ils continuent sur, il pourrait y avoir une BD qui explique, tu vois, entre deux jeux, ce qui se passe.
Oui.
Je pense que c'est dans cette idée-là qu'il faut voir le truc. Après, si, comme dit, si c'est pour faire un film double, c'est bon, on n'a rien gagné, quoi.
Bon, on verra ce que ça donne. Pareil à suivre, hein, voir les projets qui vont en ressortir. On continue du coup avec notre playlist du mois. Donc, est-ce que tu as réussi à jouer ce mois-ci, Dédé ?
Bien sûr. Moi, j'ai réussi à jouer. Alors... pour ce faire, j'ai un stagiaire, parce que j'ai pas d'enfant. Mais au bureau, il y a un stagiaire.
c'est idéal, un stagiaire, ça c'est bien.
Voilà, c'est un peu mon fils spirituel. Et donc, je l'avais, parce qu'il voulait apprendre à jouer à des jeux de société. Alors, je l'ai envoyé, bien sûr, chez Philibert, comme on est à Strasbourg.
Ouais.
Et il dit, ah, mais il y a plein de jeux et tout ça. Et les mecs, ils connaissent tous les jeux. Il nous a expliqué plein de jeux. Et du coup, il s'est acheté un jeu. Et à midi, je lui dis, bah, tiens, si tu veux jouer, j'ai Love Letter dans mon sac. Ce qui est bien avec Love Letter, c'est que c'est petit,
pas
que ça se transporte facile, voilà. Et du coup, on a fait quelques parties de Love Letter et c'est toujours aussi bien, je trouve, malgré les années, voilà, le fait que ce soit épuré, ça permet de passer
le temps sans vieillir, sans être lassant.
Voilà, et comme après le thème il vieillit pas, comme il est quasiment pas là, quoi. Et du coup il l'a acheté aussi.
Et donc j'espère que tu perçois des commissions à chaque fois qu'il va acheter un jeu maintenant.
Malheureusement pas, c'est un peu ça le problème.
Il est jeune, il est beaucoup plus jeune que
ouais,
nous.
Il est né en 96, tu vois, donc ça.
Ouais.
C'est...
Ouais, ouais.
Et là tu te dis, oh, ça donne un coup de vieux, tu vois.
Ouais. Là, tu te dis, techniquement ça pourrait être mon enfant, mon Dieu.
Voilà, c'est ça.
Et du coup, il connaissait aucun jeu.
Non, bah, il avait joué, je crois, à du Time's Up et du Loup-Garou, les classiques. Mais pas,
donc c'est bien parce
mais
que, pas... en plus, donc tu joues, tu rattrapes un peu ton retard en nombre de parties de l'année, et en plus, tu convertis.
Voilà, et là, j'ai sorti la dernière fois Jaipur pour le motiver, voilà, un autre jeu.
Bon, et tu lui fais faire quand même des photocopies, j'espère.
Bien sûr, non, mais dans mon métier, on a pire que ça. On lui fait plier des plans, parce que quand on a plein de plans à imprimer, après, fait les plier les plans à zéro pour qu'ils puissent rentrer dans du A4, tu vois.
Ouais.
Et ça, c'est assez chiant à faire. Et du coup, quand on en a beaucoup, allez, les stagiaires.
Ah, c'est bien.
c'est pas des photocopies, mais ça s'en rapproche.
Ouais, du temps que c'est chiant, c'est bien.
Voilà. Et toi, tu as aussi exploité tes enfants pour jouer, alors ?
Alors, je les exploite toujours, mon mari aussi, mais là, ce mois-ci, j'ai fait plusieurs parties d'Oliver Twist, donc j'ai joué et avec mon mari et avec mon collègue, parce que moi, j'ai aussi dû... moyen aussi. Ouais. Et moi aussi, je vais au travail pour convertir les gens. Et du coup, bah, avec mon collègue, on joue tous les mercredis midi. Donc, j'apporte un nouveau jeu, etc. Mmh. Donc, faut que ce soit des jeux pas trop encombrants et auxquels on puisse jouer à deux. Donc, la dernière fois, j'avais rapporté Oliver Twist, qui est un jeu de Bruno Catala et Sébastien Beaujon, je crois. Où en fait, tu es un gamin des rues. Le but, c'est de gagner le plus d'argent possible. Moi, ça me va bien comme objectif. Et ça, je comprends bien l'objectif, c'est bon, voilà. Ça, je maîtrise, je vois bien. Et donc en fait t'es un gamin des rues et tu dois gagner le plus d'argent possible pour acheter ta liberté. Donc c'est un jeu de course parce que tu vas avancer, tu vas ramasser des pions objets. Et ces objets tu pourras ensuite aller les revendre aux méchants qui s'appelle Faggins, je crois, et qui est receleur. Mmh. Et ça se joue en deux phases, c'est-à-dire que t'as une première partie du jeu, bon je rentre pas dans les détails parce que c'est pas l'objet de notre intervention, mais t'as une partie du jeu qui se joue en phase jour, et la deuxième manche se joue, enfin tu retournes ton plateau et t'as une phase nuit. Mmh. La mécanique est semblable, mais il y a quelques petites choses qui changent. Et tu vois, mon collègue, lui, qui découvre un peu les jeux depuis quelques temps, lui, il a vraiment apprécié le côté, ce côté, enfin, de passer phase jour-nuit. Bon, nous, on avait trouvé ça sympa aussi. Et il a trouvé ça assez chouette. Et alors, bon, le jeu est très réussi visuellement. Et donc, c'est un jeu, c'est pas le jeu qui change ta vie, enfin, clairement. Mais c'est un. Non, mais voilà, tu sors pas, tu te dis pas waouh, enfin. C'est pas une claque monumentale quand tu le découvres, mais c'est un jeu qui est très sympa, très accessible et très bien aussi pour jouer avec des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer. Ça s'appréhende très rapidement, donc au moins si vous avez l'occasion d'essayer, enfin allez-y, quoi.
Mais les parties, je vous ai dit 30 minutes à 1 heure, c'est pas un peu long pour la...
Alors une heure
pour la pause midi ou
franchement,
une heure c'est rare, peut-être à plus
une heure Peut-être la première partie, tu mets un peu plus de temps parce que t'as rentrer dans les règles. Mais pour peu qu'il y en ait un autour de la table qui sait jouer, ça expliqué en 5 minutes. T'as un peu de temps parce qu'il faut mettre en place les jetons sur le plateau. Il y en a qui disent que c'est laborieux. Non, franchement, enfin, c'est à moins d'être très très lent toi-même, c'est enfin en 5 minutes c'est fait. Donc moi je dis plutôt allez 30-35 minutes quoi, enfin à peu près. Ouais, bon, on était deux, mais je vois pas le, enfin le nombre pour moi change pas énormément. Puisque au final simplement il y aura, enfin tu vas les jetons, tu les prends à la même vitesse sur le plateau de toute façon puisqu'il y en a le même. Bon, à deux t'enlèves quelques jetons mais ça change pas la face du monde pour moi. Donc non c'est, puis tu sais nous à Paris on mange, on prend 2 heures pour déjeuner.
Ah bah oui.
Mais c'est marrant parce que comme du coup on joue au bureau, il y a des gens qui passent et qui regardent et qui se demandent vraiment ce qu'on fait.
Ah, parce que vous avez des bureaux vitrés, c'est ça?
Ouais, puis enfin, on a des, tu sais, c'est un, ils ont fait des, c'est des trucs, on a des espèces de petits canapés à des endroits où tu peux te mettre pour avoir des espaces de convivialité. Donc on a trouvé que c'était assez adapté à la situation.
Bah, c'est totalement adapté à un espace de convivialité, le jeu de société.
Exactement. Donc voilà. Donc, bah, franchement, si vous avez l'occasion de l'essayer, ça vaut le coup. Et puis, je pense que pour jouer avec des enfants, c'est assez simple. Hein. À partir de 8 ans, c'est sans problème.
On va donc enchaîner sans transition sur les chroniques.
Oui.
On va commencer avec les plateaux numériques. C'est Fendoel qui nous parle de Legendary DXP, un deck building coopératif. On va écouter ça tout de suite.
Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, c'est Fendoel. De nouveau, nous nous retrouvons pour ce nouvel épisode des plateaux numériques. Dans cet épisode, je vais vous parler d'un jeu de société qui n'en est pas vraiment un. Legendary DXP. Alors Legendary, c'est une série de jeux de société au thème fort, mais aux univers très variés, créés par Upper Deck. Comme univers, on retrouve Alien, Predator, Buffy, Firefly, Marvel et encore quelques autres. La mécanique du jeu provient de Dewin Lowe, qui en est l'auteur. Alors je ne possède pas tous les Legendary, mais globalement il s'agit d'un deck building coopératif avec 2 lignes de cartes sur un plateau central. Dans la zone du bas du plateau sont alignées 6 cartes qui peuvent être achetées pour les ajouter à votre propre paquet de cartes et donc l'améliorer. Dans la zone du haut, on va piocher une carte à chaque tour et faire progresser les cartes déjà en place, une carte poussant l'autre au fur et à mesure. Et les cartes de la partie haute peuvent avoir des effets quand elles entrent sur le plateau, quand elles sortent du plateau, et s'il s'agit de vilains, il est possible de les affronter pour parfois avoir des récompenses. À chaque tour, un joueur piochera 6 cartes. Ces cartes lui fournissent 2 ressources, les ressources pour acheter et des ressources d'attaque. Avec des ressources d'achat, donc on peut acheter d'autres cartes meilleures dans la file du bas. Avec l'attaque, il est possible d'affronter les vilains et ou alors d'aller taper directement le grand méchant de la partie qu'on est en train de jouer, si on a la puissance suffisante. Au bout de plusieurs attaques, le grand méchant est défait et les héros remportent la partie. Chacun des héros a ensuite un score individuel correspondant aux cartes combattues et aux cartes achetées. Legendary DXP, pourtant, n'existe pas en version papier et carton. Il reprend les mécaniques d'un autre Legendary, mais dans un univers heroic fantasy, un peu pop, style World of Warcraft ou même League of Legends pour ceux qui connaissent. L'application a été développée par Upper Deck via le studio Skyreacher et le jeu est gratuit. Mais en réalité, il coûte 5€, mais il est possible de l'essayer en solo gratuitement avec un grand vilain et un complot offert. Une fois que vous avez payé les 5€, ça débloque l'intégralité des grands vilains et des complots possibles. Cependant, certains aspects du jeu restent payants. Il y a des achats in-app, j'en reparlerai. Le jeu est en anglais et le tutoriel fait bien rire, dans le mauvais sens du terme. Il s'agit de 10 écrans à la suite les uns des autres censés expliquer le jeu. Alors c'est sommaire, mais c'est suffisant. C'est assez clairement expliqué. Mais en général, on est plutôt habitué à mieux. Également, on a la possibilité de voir les règles en PDF. Donc c'est même pas intégré à l'application, hein. Vous allez télécharger les règles sur le net en PDF. Quant au jeu, donc, dans le jeu, il est possible de jouer en solo contre le jeu. Donc on choisit ce qu'on veut, on est tout seul face au jeu. Il n'y a pas d'IA, car le jeu a une difficulté intrinsèque, en partie liée au hasard des cartes piochées. Il n'y a pas vraiment besoin d'intelligence pour lutter contre les joueurs. Les autres types de jeux permettent de jouer avec des vrais humains via Internet. On pourra jouer en match rapide, le jeu cherchant automatiquement des adversaires sur le net. 2 minimum, mais ça peut être 5 maximum. Les tours de jeu durent 2 minutes maximum, ils sont limités de base. Les ennemis et les complots sont aléatoires. Et aucune discussion n'est possible avec les autres joueurs. Il est possible de lancer quelques onomatopées cependant. À deux joueurs, les parties sont rapides. Ça dure 10, 15, allez, 20 minutes maximum, ce qui est parfait. À noter qu'il n'est pas possible de quitter en cours de partie, sauf en fermant l'application. Et jouer contre des amis est une autre possibilité. Alors, quand on choisit jouer contre des amis, en fait, on peut soit jouer contre des amis, soit jouer contre des bots. Il n'y a pas plusieurs niveaux d'intelligence. Il y a un seul niveau d'intelligence qui est relativement correct. Ensuite, on pourra choisir, avec ce mode-là, le vilain qu'on va affronter et les complots qu'on va affronter. On pourra également jouer en mode Gauntlet, alors qu'il n'est accessible gratuitement qu'une fois par jour. Et ce mode permet de gagner des packs. Je vais revenir là-dessus. En fait, le premier joueur gagnera 3 packs, le deuxième 2 packs, le troisième 1 pack, et les deux autres joueurs gagneront juste des sous. Alors, c'est plutôt généreux, mais le fait de devoir payer est plutôt embêtant, je trouve. Pour un jeu qu'on a déjà payé 5€, je vous rappelle. Enfin, donc, il faut savoir qu'à la fin de chaque partie, on va gagner de l'expérience qui nous fera augmenter de niveau, ainsi que des pièces d'argent. Alors, il est possible de gagner aussi des packs à chaque changement de niveau ou en les achetant avec de l'argent. Que contiennent ces packs ? En fait, juste des options esthétiques, ce qu'ils appellent la collection. Ça permet de changer le jeu, changer votre avatar, changer le lot des cartes, changer le tapis de jeu, etc. En gros, vous pouvez essayer le jeu gratuitement, y jouer en payant 5€, et en plus, vous avez un système de collection de trucs esthétiques bien long à débloquer. Il existe aussi un classement hebdomadaire avec de l'XP gagné qui permet de gagner encore des packs, etc. Mais toujours pour juste de l'esthétique. Il n'y a pas du tout de cartes à collectionner. Votre deck sera pas meilleur si vous payez. Concernant les autres fonctionnalités, on peut couper la musique, couper les bruitages, aller voir les réseaux sociaux de DXP Légende, voir notre collection, etc., etc. C'est quasiment tout. Alors, concernant l'interface, je recommande clairement de jouer à Legendary sur une tablette plutôt que sur un téléphone. Ça reste possible sur un téléphone, mais il faudra agrandir les cartes toutes les 3 minutes pour se rappeler ce qu'elles font. L'interface est plutôt claire, le jeu n'est pas très technique, on reste sur du style Dominion première boîte pour ceux qui connaissent. Alors mon avis, j'ai regroupé mon avis en fait en points que je n'avais pas aimés et en points que j'avais aimés. Donc pour les points que j'ai pas aimés, eh bien c'est à mon avis le gros point noir de l'application. On est obligé d'être connecté. Même en faisant une partie solo, c'est obligé d'être connecté. Si vous êtes déconnecté, vous perdez votre partie. On est obligé également de s'inscrire. Alors, il y en a que ça dérange pas. Moi, je trouve ça juste embêtant. Voilà. Le prix de 5€ est élevé, mais on va dire que ça va. Mais ensuite, en plus, on peut avoir des achats in-app. Même si c'est pour de l'esthétique, bah je trouve que c'est un petit peu trop. Alors, je suis en plus pas particulièrement fan de la partie collection, qui n'a vraiment aucune utilité. Bon, ça plaira peut-être à certains, mais c'est pas mon kiff. Concernant ce que j'ai apprécié, alors le fait de pouvoir essayer gratuitement le jeu, pour voir quel goût ça a, même s'il y a un seul méchant et un seul type de complot offert. En revanche, en fait, le fait qu'il y ait un seul méchant et un seul type de complot offert donne l'impression que le jeu est très monotone. Alors que, en fonction du méchant et en fonction du type d'adversaire qu'on va rencontrer, des cartes qui vont être disponibles, ben, on pourra avoir vraiment une bonne variété de jeux. Le jeu est assez varié. Il se joue vite, c'est un bon petit deck building qui change des ascensions et des dominions. Voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de l'essayer, au moins la version gratuite. Et puis, ben, je vous dis au mois prochain pour un nouveau plateau numérique. Jouez bien!
Merci Fendoel pour cette chronique. Donc voilà, un jeu gratuit pour commencer et puis 5€.
Si on veut continuer.
Si tu veux continuer. Ben, c'est pas mal, ça permet de quand même appréhender le jeu et de pas payer tout de suite pour un jeu qui te plairait pas, c'est pas mal comme
oui comme
comme principe.
Oui, parce qu'après parfois tu regrettes un petit peu des jeux sur lesquels que tu achètes sur le, je trouve qu'en plus sur le téléphone tu as tendance un peu, tu peux acheter vite, tenter d'acheter n'importe quoi, donc forcément trop compte, donc
Moi j'ai pas ce souci là, j'ai pas rentré mon numéro de carte de crédit dans mon, je l'ai pas lié à mon compte Android, et du coup je suis pas tenté d'acheter d'acheter des trucs payants. Quoi. Bah, il y a déjà ces jeux gratuits qui occupent du temps. Là. J'étais coincé dans un jeu là où j'arrêtais pas de jouer. J'ai dit, il faut que je le désinstalle. Je fais plus que ça.
Bah, oui, bah, quand tu commences à te retrouver à jouer à des petits jeux un peu à la con, parfois sur le téléphone, bon, tu te dis, je pourrais quand même faire. Dans la salle d'attente chez les médecins, ça passe, mais en dehors.
Ouais, bah voilà, du coup, je me suis dit, bon, j'arrête. Je ferai autre chose sur mon téléphone plutôt que de jouer à ça. Parce qu'après, le matin, tout de suite, je jouais. Parce que, bien sûr, dans les jeux, t'as toujours le petit truc. Que tu as tous les jours, ton cadeau que tu as tous les jours,
oui.
Ton cadeau que tu as toutes les 3 heures, et donc il faut que tu reconnectes toutes les 3 heures.
Tu as une alarme sur ton téléphone pour dire c'est bon, ça y est, je peux y aller.
Voilà, il t'envoie des notifications. Ah, vous pouvez jouer. Et au bout d'un moment, je me suis dit non, faut que j'arrête, c'est le mal.
Oui, parce que franchement, je crois que c'est. En plus, moi, c'est marrant parce que je le fais et en même temps, je dis à mon fils de pas le faire parce que je lui dis c'est vraiment. Je lui dis, quand on a une Nintendo Switch, je lui dis, t'as des jeux 6 fois plus intéressants, on va pas jouer à des conneries sur le téléphone. Et moi-même, la première, je fais des espèces de faux Tetris, tu vois. Donc, ah, bon, oui. Là, tu te dis, quand t'as passé une heure le soir à faire ça, tu te dis, waouh, j'aurais vraiment pu faire autre chose de plus intéressant.
Et après, tu te dis, ah, mais les gens qui passent leur soirée devant la télé, vraiment, c'est pas productif.
Exactement.
Ok. On va continuer avec Si le jeu m'était compté, en parlant de films à la télé. Il nous emmène dans un film noir. Il se prend un peu pour Jean Gabin.
Ouais.
Et il nous parle de Mafioso. On l'écoute tout de suite.
J'ai l'histoire. Il descend dans une grotte et il va beaucoup, beaucoup plus loin que ce qu'il pouvait imaginer.
Je vais faire les décors en n'ayant pas peur de la couleur. Je vous préviens, apportez vos lunettes de soleil.
Moi, je dessine les animaux.
Je t'envoie des iguanes. C'est extraordinaire.
Ah oui, quel beau monstre. Je me suis fait un petit costume simple et sympa.
Et pourrais-tu prendre un petit accent du terroir?
Vous êtes prêts?
Oui!
Si le jeu m'était compté.
Cela faisait longtemps que je traînais déjà ma bosse dans le métier. Mais une nouvelle allait bientôt ébranler le petit monde des truands. Gino, le bras droit de Momo les dents longues, venait de malencontreusement de nous quitter dans des circonstances soi-disant troubles. Nul doute que moi, j'avais ma petite idée sur la question en connaissant bien le phénomène.
Attendez, attendez! Tu vas pas faire ça, dit Momo.
Tu sais, Gino. La trahison ne fait pas partie de mon vocabulaire. Rien que de le dire, j'ai envie de vomir.
Mais ça fait 20 ans que tu me connais. Ça compte, non?
Justement, ça fait 20 ans de trop. Il y a 20 piges. Je t'aurais donné à 100 contre 1. Bon, allez, liquidez-moi cette ordure. Rien que de le regarder, ça me donne la fièvre. C'était à prendre et, sans aucun doute, des nuits blanches étaient à prévoir. La seule façon d'avoir la bonne Momo, c'est de l'impressionner. Va falloir se sortir les doigts, comme on dit vulgairement. Et pour ça, va falloir faire le tour de toutes les petites mains. Les serviteurs, les majordomes, les boniches en somme. Leur acheter de quoi pouvoir faire la loi dans le quartier.
Raoul ?
Quoi ?
Pareil qu'il y a le Gugus de Minezo qui va débarquer.
Quoi? Non mais il veut quoi celui-là? Tu sais quoi? On va l'accueillir en grande pompe. Lui faire des offrandes. S'il aime les fruits, il va être servi. Je lui promets de belles vendanges.
Bonjour. C'est pourquoi?
Alors, tu lui promets quoi, Gugus de Minezo? Faut pas vous flasher. Je dis ça pour dire. Pour dire quoi? Si tu continues, tu ne pourras plus dire. Et retire-moi ce sourire disgracieux ou je te prends direct rendez-vous chez ton dentiste. Vous voulez quoi? Je viens faire ma récolte pour mes vieux jours. Si vous voulez la majorité, va falloir aligner les gemmes, mon vieux. Car l'ami Fritz s'est passé avant vous. Combien? Aux dernières nouvelles, il s'est couché 3 fois.
Quoi?
Et c'est combien pour récupérer aussi la même camelote que lui? $3, mon cher. Fallait pas vous disperser la dernière fois en alignant une gemme chez tout le crottin du quartier. T'es vraiment qu'un ramassis d'ordures. Une cuvette de chiottes bien trop remplie à mon goût. Si monsieur a des goûts de luxe, faut bien se mettre à la hauteur de ses envies. Après quelques remerciements manutentionnaires, j'ai obtenu quelques réductions tarifaires. Par contre, par les temps qui courent, si tu veux rester les jambes debout et pas au cimetière, faut faire un impair à tes réserves personnelles. Je contrôlais déjà le centre de boxe, le champ de course et le nightclub. Si je voulais impressionner Momo, j'avais encore des tours de bras à donner pour gagner ma place au soleil. Si la Miraoul était facile à faire chanter, d'autres sont beaucoup moins loquaces, voire même pénibles. Il y a des endroits dans cette ville où les paires de baffes sont inefficaces. En plus, s'ils ne se mettent pas d'accord sur le procédé, chez certains, c'est à la loi du plus offrant. Soit t'es celui qui aligne le plus de gemmes pour recevoir seul la faveur. En contrepartie, si t'as pas les moyens de tes envies, on te redonne ta mise avec un sourire, s'il vous plaît.
Bonjour, monsieur Antoine. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu par ici.
J'avais affaire.
Vous êtes évidemment toujours le bienvenu chez nous. Je vous mets de côté une petite caisse de Zopérignon, comme d'habitude.
Je viens pas pour le gosier, mais pour les services, si vous voyez ce que je veux dire.
Vous savez bien que ce n'est pas le genre de la maison.
Ce serait pas le clinquant qui vous intéresse? Première nouvelle.
Oui, mais le clinquant vient toujours avec celui qui le porte.
Évidemment. À combien s'élève le plus généreux?
Notre meilleur donateur, c'est Roger le Dessoudé.
Dans ce cas, vous pouvez d'ores et déjà commander une caisse de plus pour qui voudra.
Vous savez évidemment à quoi cela vous expose.
Chez d'autres, comme pour Raoul, à partir du moment où t'es le dauphin, tu récupères ta mise, mais si tu veux quand même l'influence, on te demande d'aligner les olards. Bref, les emmerdeurs, les malhonnêtes. Enfin, chez certains, c'est carrément la banqueroute chill.
Bonjour monsieur, c'est pourquoi?
C'est pour un retrait d'une faveur.
Très bien monsieur, ça vous fera 2 gemmes s'il vous plaît. Laissez-moi une minute, le temps de vérifier.
Ouais, parce qu'en plus d'être des voleurs, ils n'ont pas confiance. Faut toujours qu'ils valident ta marchandise, et ce, même si tu as pourtant tes habitudes dans l'enceinte. Après quelques voyages gratifiants, j'avais désormais les richesses me promettant un avenir radieux. Des faveurs de torboyaux, des permis de construire, des vieilles ferrailles clinquantes, des pétards. J'avais même récupéré une faveur pouvant remplacer n'importe laquelle en allant présenter tous mes respects à la femme du boss, Églantine.
Bonsoir, Beaubrun.
Bonsoir, Églantine. Je me demandais si par hasard tu ne m'offrirais pas le gîte et le couvert cette nuit.
C'est Momo qui va pas être content s'il l'apprend.
Je ferai tout mon possible pour que ça n'arrive pas à ses oreilles. Grâce à toutes ces offrandes bien méritées, j'ai pu m'installer dans les différents lieux dont je n'avais jusqu'alors pas accès et y asseoir mon influence. Au commissariat, à la mairie et même au tribunal. En additionnant toutes mes influences des différents lieux et celles que j'exerce dans tous les quartiers, désormais Momo n'avait plus qu'à m'embrasser et m'officialiser comme nouveau bras droit. Malheureusement, c'était sans compter Tonio le Croco, qui me doubla d'une courte tête et qui me souffla le poste. Et vous savez tout aussi bien que moi comment ça se termine quand tu contestes la victoire d'un rival dans ce milieu. Voilà comment je suis passé 6 pieds sous terre. Maintenant que vous savez tout, voyons voir si vous ferez mieux. Je vois bien, mais je veux juste surtout.
Merci Suis-je pour cette chronique. Ça donne envie d'être dans la mafia.
Non. Ah, moi j'ai toujours eu envie.
T'as toujours eu envie d'être dans la mafia.
Quand j'avais 6 ans, j'avais vachement envie d'être dans la mafia. Je me disais, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Moi je me disais, j'aurais un emploi fictif dans le secteur, en général c'est toujours les poubelles, tu vois. Je fais souvent ça, c'est dans les traitements des ordures et en fait tu fais
du racket. Ou les restaurants italiens.
Oui. Mais moi, j'ai remarqué que c'est souvent ça où, enfin, en tout cas, moi, j'avais bien aimé les Sopranos et ils y travaillaient tous dans, ils avaient toujours des fausses, un peu des boîtes de, mm-hmm. où ils raquettaient un peu les, tu sais, enfin, ils avaient des espèces de faux marchés publics, enfin, municipaux pour faire ça. Ouais, non, mais c'est toujours marrant que la mafia.
Non, mais c'est un beau métier, tu te fatigues pas trop au travail, tout ça, non?
Ouais, ça peut quand même mal tourner pour toi.
Ah, c'est sûr qu'il n'y a pas trop de retraite. Le plus souvent.
Ouais, et puis
faut en profiter tout de suite, quoi.
Mais c'est toujours bizarre que l'attrait que ce milieu-là arrive à susciter, alors que c'est quand même un milieu très violent.
C'est le mythe de l'argent facile. C'est comme les jeunes qui veulent devenir footballeurs, parce que
Ouais, ça c'est, reste légal quand même le football. Faut que je sache à peu près.
Bah, ça dépend. Hein. Il y a des transferts un peu louches quand même.
Oui, 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 mais.
Et
si
puis
tu fais...
ceux qui se dopent, c'est aussi un peu illégal.
Ouais. Mais bon, disons que dans le football, j'ai rarement entendu que tu te réveillais avec une tête de cheval dans ton lit. Tu vois. Il me semble pas qu'on en arrive à des extrémités pareilles. Mais ouais.
Mais non, bon, mais il y avait une histoire de chantage aussi avec
des
joueurs
de
foot. Hein. Tu
oui,
vois,
oui, c'est
un peu
vrai.
La même chose.
Il y avait l'affaire de la sextape.
Ben voilà.
De ce pauvre Mathieu Valbuena. Et... Oui, oui, c'est vrai. Mais bon, quand même, enfin, la base du métier est quand même légale, alors que dans la mafia, enfin, le racket, ça n'a jamais, ça n'est pas. Et... Enfin, tu... Ouais, c'est un peu bizarre. Parce que même moi, j'avoue que j'ai bien aimé Le Parrain. J'aimais bien les Sopranos. Enfin, c'est... Et en même temps, ça reste, on sait que c'est quand même un milieu hyper dangereux, enfin, qui est nocif, c'est quand même une organisation ouais. Nocive.
C'est le goût de l'interdit.
Ouais. Je sais pas, mais donc pour le jeu, pour le coup, ça a l'air plus sympa hein,
que la vraie mafia.
Ouais.
Bah, j'espère qu'on n'est pas obligé de te tuer à la fin du jeu.
Si t'as perdu, tu.
Si t'as perdu, voilà. Ça.
On te coupe un petit doigt et.
Non, ça c'est les Yakuza.
Ouais, c'est. Mais ils ont sorti aussi Le Parrain en jeu.
Ouais.
Qui avait l'air
un
peu moins. Enfin, pas facile, mais un peu plus gamer comme cap. Mais là, okay. Ça avait l'air plus bon enfant, un peu plus les ouais. Tontons flingueurs, un petit peu l'ambiance, en tout cas, qui nous était décrite.
Ouais. Alors, sans transition, on va continuer avec Dany qui nous emmène dans un labyrinthe, mais pas n'importe quel labyrinthe, le labyrinthe master. On l'écoute tout de suite.
Salut à tous, aujourd'hui j'ai choisi de vous parler de Labyrinthe de Ravensburger. Pas vraiment original me direz-vous, c'est pas faux car c'est LE grand classique de Ravensburger. Il a fêté ses 30 ans récemment, en 2016, et connaît de multiples versions, notamment sous forme de produits dérivés, avec des versions Hello Kitty, Moi moche et méchant ou encore Seigneur des Anneaux. Cela dit, il existe aussi deux autres versions qui varient un peu le principe de jeu, Labyrinthe Master et Le Labyrinthe Secret. C'est de Labyrinthe Master dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Cette version est parue en 1991 et garde les principes de base du jeu. Un plateau avec des tuiles qui forment un labyrinthe qui évolue à chaque tour. Lorsqu'un joueur insère une tuile sur une des lignes, toutes les tuiles de la ligne avancent et la tuile qui sort à l'autre bout sera la prochaine tuile à insérer. Les joueurs disposent de cartes trésors et doivent parcourir le labyrinthe pour les trouver. Le premier qui trouve tous ses trésors et revient à son point de départ gagne. La première différence dans Labyrinthe Master, c'est que les objets doivent être récupérés dans un ordre défini, ce qui complexifie un petit peu la chose. Ensuite, chaque joueur dispose d'une carte recette avec trois ingrédients. Si le joueur réussit à récupérer les ingrédients de sa recette secrète, il gagnera des points bonus à la fin du jeu. Enfin, chaque joueur dispose de trois baguettes magiques qui lui permettront de rejouer. Plutôt pratique quand on veut absolument récupérer les ingrédients de sa recette. À la fin de la partie, on compte les points avec la valeur des trésors récupérés, 20 points bonus pour chaque ingrédient de sa recette et 3 points pour chaque baguette non utilisée. Le joueur avec le plus de points gagne. Le premier labyrinthe et ce labyrinthe master ont en commun l'univers médiéval et les illustrations qui vont avec. Elles me font penser à un illustrateur que j'aime beaucoup, le très alsacien Tommy Ungerer. Je trouve qu'on retrouve un petit peu l'esprit de son livre « L'apprenti sorcier » qui a des monstres un peu bizarres cachés partout dans son château. Cette remarque sur les illustrations concerne bien sûr les vieilles éditions, donc celle de 86 pour le labyrinthe originel et le labyrinthe master, celle de 91. Je suis pas allé voir les toutes dernières éditions, c'est peut-être un petit peu moins sexy, en tout cas à mon goût, mais je suis sûr que l'esprit médiéval est toujours là. Si on lit en détail la règle, on a aussi quelques indications magiques. On apprend par exemple que les pommes de pin mis sous l'oreiller aide à faire dormir les enfants et que le crottin de cheval agit contre la fièvre. Je vous laisse faire ce que vous voulez de ces informations. Labyrinth Master a eu un Spiel des Jahres, mais il n'est malheureusement plus disponible. Il vous faudra parcourir les allées de vide-grenier ou les magasins de seconde main pour le trouver. Je vous conseille quand même de garder en tête l'existence du labyrinthe classique, qui selon moi peut faire un très joli cadeau pour initier au jeu de société. Sur ce, je vous dis, jouez bien!
Merci Dani pour cette chronique. Alors toujours dans Ravensburger, on voit bien qu'elle aime bien ce que nous sort Ravensburger, ce que nous a sorti durant toutes ces années Ravensburger. C'est vrai qu'il y a des beaux jeux.
Ah bah Labyrinthe, c'est quand même... Labyrinthe, le jeu de base, c'est quand même un classique du jeu, en tout cas. J'y ai beaucoup, beaucoup joué quand j'étais plus jeune. Et j'étais hyper forte à ce jeu, je tiens à le préciser. En général, je gagnais très très souvent, donc peut-être pour ça aussi que j'en ai un très bon souvenir. Et c'était un super...
Une bonne vue dans l'espace.
Voilà,
c'est ça,
exactement.
Bien poussé.
Mais c'était un super jeu. Labyrinth Master, j'ai pas joué à cette version-là, mais le classique, c'était vraiment top, quoi. Je l'ai toujours d'ailleurs, mais.
Moi aussi, j'ai pas mal joué avec mon frangin. Jusqu'à ce qu'on perde une pièce, parce que après, si tu perds une pièce, c'est un peu plus difficile à jouer. Autant un Carcassonne, tu perds une tuile, tu peux toujours continuer à jouer. Autant à Labyrinthe, tu perds une tuile, t'es un peu comme un con.
Je pense que tu peux racheter la boîte.
Ouais, c'est ça.
Ou en racheter beaucoup en brocante pour essayer de retrouver la pièce qui te manque.
La pièce qui te manque.
Et moi, je me souviens très très bien de tous les petits dessins qu'il y avait, des trésors. Il y avait une espèce d'Athéna.
De fantôme.
Il y avait le fantôme, il y avait un espèce de petit dragon, il y avait des bijoux. Je revois très bien le visuel.
Le plateau.
Ouais.
Donc t'as beaucoup joué.
Ah oui, j'adore. Ça fait partie de des jeux, quand j'étais petite, vraiment marquants. Et super jeu. Et je crois que nous, on a la version qu'on a à la maison. Je me demande s'il manque pas une pièce d'ailleurs. Et que c'est pour ça qu'on n'a jamais pu y jouer vraiment avec les enfants.
Mais tu écris à Ravensburger, je suis sûr, ils t'enverront la pièce.
Ah, c'est pas con, je pourrais essayer, tiens.
Tu prends une photo du plateau, tu dis, il nous manque juste une pièce.
Et ils vont me dire, mais c'est la version de 1981-10. Vous avez mis du temps avant de nous écrire.
Peut-être, ils ont peut-être toujours des réserves. Mais donc, Dani nous a indiqué aussi qu'avec Labyrinth Master, il y a des formules magiques.
Oui.
Donc, des petits tips de sorcière, genre de mettre une pomme de pin sous l'oreiller ou du crottin de cheval contre la fièvre. Moi, j'ai noté qu'il faut pas bien éviter d'inverser, donc pas de crottin de cheval sous l'oreiller.
Ouais.
Ça, après, tu dors, je pense que tu dors moins bien à cause de l'odeur.
Je pense qu'à un moment, ça finit par te réveiller, tu vois.
Ouais, c'est ça.
Après, si tu dors avec quelqu'un en plus, l'autre personne risque d'en avoir vite marre.
Voilà. Et en plus, si t'es mafieux, t'as une tête de cheval en plus du crottin. Tout est lié.
Tu vois, il y a un fil rouge dans cette émission.
Voilà. C'est le cheval.
C'est l'oreiller et le cheval, il y a quelque chose à faire.
Voilà notre prochain proto de jeu de société avec du crottin de cheval et une tête de cheval.
Nous, on vous fera un jeu avec ça, il n'y a pas de souci.
Alors, ce sera sûrement un jeu de communication coopératif. Non ?
Oui.
Et en parlant des jeux de communication coopératifs, le Pionfesseur nous analyse ce type de jeu, entre autres avec Mysterium. On va l'écouter tout de suite.
Salut les joueurs, salut les joueuses, je suis le Pionfesseur. Il y a maintenant 2 ou 3 ans, on a vu débouler dans nos contrées le jeu Mysterium, qui a fait un carton monumental et qui a même remporté l'As d'or jeu de l'année 2016. Un prix qui me semble fortement mérité, car je pense qu'il a apporté quelque chose de très innovant au monde ludique, voire même peut-être qu'il a carrément lancé un nouveau style de jeu. Parce que oui, le jeu est super cool en termes d'ambiance, de thème, mais aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est sa mécanique, et je vais vous expliquer pourquoi elle me semble si nouvelle et si intéressante. Déjà, resituons le jeu rapidement pour ceux qui ne connaissent pas. Mysterium, c'est un jeu coopératif et asymétrique. Une personne va incarner un fantôme et les autres joueront des médiums qui doivent communiquer avec lui pour trouver qui est le coupable, le lieu et l'arme du crime de son meurtre. L'astuce étant qu'ils n'ont pas le droit de communiquer directement, mais que le fantôme va envoyer des visions au médium, ce qui est concrètement représenté par des cartes, avec uniquement des illustrations un peu oniriques dessus. À lui de se débrouiller pour envoyer des cartes qui représentent des bons indices pour les médiums. Alors vu qu'il y a ces fameuses cartes vision avec uniquement des illustrations dessus, et très probablement parce que le jeu a été traduit chez Libellude en France, j'entends souvent des gens faire des rapprochements avec Dixit. Et je trouve ça dommage de s'arrêter juste à un gimmick matériel, parce que point de vue mécanique de jeu et émotion procurée par le jeu, Dixit et Mysterium sont vraiment très différents. Dixit c'est un dérivé du jeu du dictionnaire, un peu comme Bluffer ou Kemosako, dans le sens où l'objectif est de retrouver une bonne proposition parmi plusieurs qui ont été émises par les adversaires, de sorte que les adversaires vont tout faire pour rendre leur proposition crédible afin de vous embrouiller. Mysterium, lui, est plutôt un dérivé de jeux de communication, du style Time's Up, Pictionary ou Tabou. On essaye de transmettre des informations à un partenaire avec certaines contraintes. Dans Pictionary, tout doit passer par le dessin, par exemple. Et donc dans Mysterium, la contrainte est de devoir utiliser ces fameuses cartes avec des images dessus. C'est donc dans cette famille que j'appellerai les jeux de communication que Mysterium apportera une innovation qui me semble importante. Il s'agit là du premier jeu de communication coopératif, où les joueurs ne jouent donc pas en équipe, comme c'est souvent le cas dans ce genre de jeu, mais plutôt tous ensemble contre le jeu. Et j'insiste sur le fait que quand je dis que c'est le premier jeu de communication coopératif, on parle de jeu de communication au sens que je viens de vous expliquer plus tôt, c'est-à-dire que l'objectif final est de faire comprendre à un partenaire une information en faisant appel à des images, des mots ou des références communes. Et vous vous souvenez quand je vous disais au début de cette chronique que Mysterium avait probablement lancé un nouveau style de jeu. Je pense qu'on peut en effet constater que s'il existe une branche de jeu qu'on appellera les jeux de communication, alors depuis Mysterium, il y a un dérivé de cette branche qui serait les jeux de communication coopératifs, au sein de laquelle on peut ranger Profiler, Unusual Suspects ou encore CS Files, chacun utilisant des manières de communiquer différentes, parfois des mots, parfois des images, parfois des têtes de personnages. Il y a tout de même une particularité pour CS Files, puisqu'il n'est pas vraiment coopératif, c'est plutôt un jeu où on joue à tous contre un. Mais je pense qu'on peut quand même le classifier comme un dérivé de Mysterium, parce qu'il utilise les mêmes outils qu'un jeu de société coopératif. Un petit peu comme les Chevaliers de la Table Ronde, où malgré le fait qu'il y ait un traître parmi les joueurs, le jeu est tout de même considéré par beaucoup comme étant un jeu coopératif, parce que justement, il en utilise les mêmes genres de mécaniques. Mais bref, mettons donc qu'il existe cette sous-branche des jeux de communication coopératifs, qui est très récente et donc probablement encore en développement. Qu'est-ce qui va faire qu'elle mérite son statut à part entière de sous-branche et donc pourquoi ces jeux se distinguent tant que ça? Pour moi, la différence majeure se joue justement sur le timing des tours de jeu. Dans les jeux de communication qu'on a l'habitude de voir, on est souvent sur des jeux en équipe où le but est de faire deviner un maximum de choses en un certain temps. Il n'y a pas vraiment trop de difficultés en soi si ce n'est qu'il faut essayer de faire le plus vite possible. Et c'est assez normal puisque c'est des jeux qu'on pourrait qualifier de party game, qui sont censés se jouer rapidement, être intenses, provoquer la rigolade, mais surtout ne pas trop faire attendre l'autre équipe qui ne fait rien pendant ce temps-là. L'aspect coopératif permet justement d'éviter cela, et donc d'avoir des phases de réflexion plus longues, car tout le monde participe et donc le jeu reste fluide, même si un tour de jeu dure 3 minutes. Ainsi, ces jeux ne vont pas axer leurs difficultés sur le stress d'un temps limité, mais plutôt sur la communication en elle-même. On va limiter les outils de la personne qui fait deviner, pour la forcer à utiliser des images, des symboles, des idées détournées, afin de rendre la tâche plus ardue pour les joueurs qui devinent. Et c'est ça qui fera que le jeu est difficile, et donc intéressant. On peut d'ailleurs constater que dans tous ces jeux, les joueurs doivent deviner parmi un panel de propositions, et non pas ex nihilo comme c'est le cas dans des jeux de communication plus classiques. C'est probablement parce que justement la communication est très très limitée, et que ça serait juste impossible de deviner si on n'avait pas ce panel. L'avantage, c'est que ça permet aussi de modifier facilement la difficulté du jeu en ajoutant ou supprimant des cartes dans le panel. Tout ça suit un petit peu le même schéma que les autres types de jeux coopératifs. Plutôt que d'attendre son tour de jeu, tout le monde peut s'impliquer en même temps, et donc le jeu peut se focaliser sur des aspects plus complexes, qui mettent plus de temps à être analysés puisque plusieurs personnes peuvent réfléchir en même temps à un même problème. Indirectement, ça rend également le jeu moins tributaire du nombre de joueurs, puisque tout le monde joue plus ou moins en même temps. Mysterium, c'est donc un jeu qui a beaucoup apporté aux jeux de communication, essentiellement grâce à son côté coopératif qui n'avait jusque-là jamais été exploité dans cette branche de jeu. On peut voir que quelques jeux commencent déjà à être des dérivés de Mysterium, ce qui est le signe d'un jeu fondateur d'un nouveau style. A noter tout de même que pour le moment les frontières restent poreuses, et on a vu débarquer en France la même année un jeu qui vient aussi des pays de l'Est, le fameux Codenames, qui reprend à peu près toutes les nouveautés que Mysterium a apportées, mais en version compétitive. Cet aspect basé plus sur la communication et moins sur un timer par exemple. D'ailleurs, Codenames a aussi une version coopérative avec Codenames Duo, comme quoi sa mécanique s'y prête bien. Évidemment, tout ça est encore un peu récent, et ça se cherche encore. Si un jeu comme Profiler utilise les mêmes ficelles que Mysterium dans un style épuré, je suis sûr qu'il existe énormément de choses nouvelles à explorer dans cette branche de jeu, et que à l'image d'un Keylus qui a popularisé le jeu de pose d'ouvrier, là où Morganland était un jeu précurseur de cette mécanique, il y aura peut-être à l'avenir un ou plusieurs jeux qui confirmeront que Mysterium a été un précurseur dans le jeu de communication coopératif. Voilà, c'est la fin de cette chronique, n'hésitez surtout pas à donner vos avis dans les commentaires, et d'ici là, jouez bien.
Merci le Pionfesseur pour cette analyse des jeux de communication coopératifs, qui est une nouvelle forme de jeu de communication qui est débarqué avec Mysterium.
Une branche des jeux de communication selon la formule qu'il utilise. Donc c'est comme je connais très mal, je suis pas une spécialiste du tout en jeux de communication, c'est pas vraiment des jeux que je pratique, donc j'ai joué à Mysterium évidemment, mais j'avais pas du tout envisagé le fait que c'était pas unique, mais que c'était novateur, que ce soit coopératif, même si c'est asymétrique, ça reste que, puisque le fantôme est bien dans le camp des médiums. J'avais pas du tout envisagé. C'est vrai que quand on pense aux jeux de communication, on pense beaucoup à des jeux en équipe, hein. C'est assez vrai.
Ouais.
Où on peut jouer à beaucoup et puis en équipe. Alors que, et du coup, en équipe qui s'affronte. Alors que là, on a cet aspect coopératif qui permet aussi que lorsqu'on doit deviner, enfin qu'on a les cartes vision et qu'on doit trouver soit le coupable, soit le lieu, soit l'objet, y a une communication entre le fantôme et les médiums, mais souvent il y a aussi de la communication entre les médiums entre eux. Enfin, moi je trouve que c'est un jeu très très assez chouette. Le matériel est très soigné, donc ça, il y a une véritable ambiance quand tu y joues. Et c'est assez drôle. Mais j'y ai joué avec des gens qui sont pas trop joueurs en pensant que ça leur plairait beaucoup et tu vois, ils ont pas tellement accroché, donc je pense que c'est parce qu'ils...
Alors moi j'ai fait qu'une partie pour le moment de Mysterium, j'ai pas forcément accroché, alors je sais pas, c'est peut-être
parce que t'es pas pour la communication, toi.
Ouais, moi je communique pas beaucoup, j'aime pas trop parler et tout ça.
Ouais, c'est pour ça que
je fais du podcast.
Ouais,
voilà.
moi je trouve que c'est l'univers qui est très très... chouette.
Ouais, l'univers est bien classe, ouais.
C'est très soigné, enfin c'est très bien fait, c'est très bien. Je crois que d'ailleurs la version d'origine du jeu était beaucoup moins alléchante, hein.
C'était un autre style de steampunk.
Ouais, je crois que c'était un peu plus austère, on va dire.
Ouais.
Mais du coup,
c'était plus polonais, hein.
Ouais, je voulais pas le dire comme ça. Mais du coup, je crois que j'avais lu un commentaire de quelqu'un qui disait que si tu y jouais très souvent, beaucoup à la suite finalement, et avec les mêmes joueurs, tu perdais un peu en rejouabilité parce que t'as des espèces d'automatismes qui se créent, et en fait, tu vas te resservir de ce que t'as fait dans d'autres parties. Du coup, enfin, t'as moins l'aspect vraiment divination, mais tu te resserres un peu de ce que t'as pu faire dans d'autres parties pour refaire deviner la même chose. Enfin,
Moi, j'avais entendu qu'il y avait des gens qui jouaient avec les couleurs dominantes des cartes. Donc, si ils sortaient une carte plutôt rouge pour faire deviner une autre carte plutôt rouge, et j'avais trouvé que ça c'était un peu
Ça je l'ai vu faire. Ouais. Je te confirme que j'ai vu des... Quand j'avais joué la première fois, il y en avait qui, parfois, ils jouaient comme ça.
Ouais, mais je sais pas si ça... On
perd un peu de l'intérêt. Parce que oui, si tu te contentes de faire ça, c'est un peu naze, carrément. Tu peux le dire. c'est aller au plus facile.
C'est être pour la gagne, quoi. On perd un peu l'histoire communication, c'est juste analyse de couleurs.
Oui, puis le petit côté un peu créatif qu'il y a, de l'association d'idées, qui est quelque chose d'assez plaisant en soi. Si c'est juste de faire des trucs par couleur, puis une fois que tu te dis que la personne elle fait ça, elle va le faire pour tout. Du coup, je trouve que ça, tu perds aussi en intérêt dans le jeu, clairement.
Ouais, bien sûr. Oui.
Mais bon, moi j'ai pas des... Mon fils, il avait adoré sur la première partie, et puis quand on en a fait plusieurs, après, j'ai senti que c'était un jeu qui était un peu lassant, quoi. Je pense aussi que c'est pas notre type de jeu, de façon... Enfin, les jeux de communication et tout, on n'est pas... C'est pas notre kiff dans la famille, donc... On préfère
pas... communiquer pas trop
dans la famille.
On préfère
pas se parler, sinon on s'engueule, de toute façon.
c'est sûr.
Mais on s'engueule tous ensemble, c'est toujours coopératif.
Tu préfères juste dire passe-moi deux cubes jaunes, passe-moi deux cubes, je prends deux cubes blancs et tout ça.
Ouais,
et
voilà.
Passe-moi le sel et tout ça. Et voilà, merci, bonjour. C'est
bah nous,
c'est
on ne se parle que comme ça à la maison. On ne dit plus fais-moi un café. Je dis fais-moi deux cubes liquides.
Deux cubes noirs.
Deux cubes noirs liquides, s'il te plaît.
Fais-moi deux cubes bruns.
Voilà, c'est comme ça. C'est beaucoup plus. Finalement, c'est tout aussi simple et beaucoup plus.
C'est plus efficace, quoi. Ok, ben on va. Mais pour les œufs, comment tu dis, y a des.
Ah.
Parce que si c'est des cubes, c'est pas vraiment des œufs.
Non.
Parce que à Pâques, comment tu fais pour demander un carreau de chocolat? C'est aussi un cube brun comme le café.
Ouais. Mais après, tu peux aussi dire, par exemple, je sais plus dans quel jeu il faut trouver, tu sais, selon les jeux, t'as des jeux où c'est telle ressource. Bon, par exemple, tu joues ouais. à Porto Rico, tu pourrais dire, donne-moi un cube bleu indigo. Mais enfin, t'as jamais besoin d'indigo chez toi, c'est un peu dommage. Mais sinon, tu pourrais faire ça, tu vois, associé à des jeux, et ça te dirait quelle ressource exactement t'as besoin. Donc, pour le chocolat, il y a un jeu, je pense, où il doit y avoir comme ressource la fève de cacao, j'imagine. Là, ça me vient.
Oui, il y a le jeu cacao.
Oui, voilà, tout simplement. Quel j'ai pas joué, c'est pour ça que j'osais pas trop m'avancer, mais donc tu vois, tu peux faire comme ça en fait. T'associes le cube d'une couleur à un jeu et on sait ce que tu demandes.
Un jeu, ok. Ah d'accord. Et du coup, on va enchaîner sur ta chronique, comme on parle de chocolat.
Oui.
Toi, tu nous parles de
Pâques,
de jeux
voilà.
de Pâques.
Ouais, de jeux pour fêter Pâques.
Ok, bah on va écouter ça tout de suite.
Maman, je m'ennuie. Tu veux qu'on fasse un jeu? Oui, tout sauf le Monopoly. Tu connais Marrakech? C'est comme le Monopoly, mais en 100 fois mieux.
Bonjour les papas joueurs et bonjour les mamans joueuses. Je suis Paul Gara et après Noël, la Saint-Valentin et mon anniversaire, c'est Pâques que je vous propose de fêter aujourd'hui. Alors que fait-on à Pâques? Eh bien on part à la chasse aux œufs, poules, cloches et lapins en chocolat. Et puis on cuisine l'agneau pascal. Le syndicat des bouchers de France nous le rappelant assez régulièrement, à croire que vraiment, personne ne mange de gigot le reste de l'année. Donc, au menu aujourd'hui, des lapins et des moutons, ce qui fera forcément plaisir à des déchutes. Des lapins, vous disais-je, pour les tout-petits, avec Hop Hop Lapin, un jeu compétitif de Rainer Knizia, illustré par Anna Petzeu, édité en France par Matago dans sa gamme Matago Kids, destiné aux enfants à partir de 3 ans, est disponible chez Philibert au prix de 21,90€. Lorsque vous ouvrez la boîte, vous découvrez 20 lapins en bois, un décoloré à 6 faces, 5 faces représentant une couleur différente, tandis que figure sur la 6e face une tête de lapin. Un plateau de jeu en 3D, intégré à la boîte, incluant sur les bords du plateau les terriers des lapins, chaque terrier 5 au total, étant d'une couleur différente, correspondant à celle du dé. On place les 20 lapins en bois au centre du plateau de jeu. Le but du jeu est de cacher les lapins dans leur terrier en fonction de la couleur du dé. Le joueur qui aura récupéré le plus de lapins a gagné la partie. Plus précisément, on lance le dé. Si celui-ci indique la couleur violette, alors le joueur place l'un des lapins dans le terrier violet. Puis, un autre joueur lance le dé et place le lapin dans le terrier correspondant à la couleur de son dé. Le prochain joueur qui obtiendra avec son dé la couleur d'un terrier dans lequel est placé un lapin pourra prendre ce lapin et le placer devant lui. Si le lancer de dé permet d'obtenir une tête de lapin, alors le joueur peut placer un lapin dans n'importe quel terrier ou prendre un lapin placé dans n'importe quel terrier. La partie s'arrête lorsqu'il n'y a plus aucun lapin au centre du plateau. Le vainqueur est bien évidemment celui qui a pu sortir le plus de lapins des terriers. Le matériel proposé plaît instantanément aux enfants. Les lapins en bois avec leurs grandes oreilles sont réussis. Et surtout, mention spéciale à la boîte en 3D qui permet de visualiser les terriers pour les plus jeunes. D'ailleurs, placer le lapin dans le terrier procure plus de fun aux enfants que de l'en sortir. Côté mécanique de jeu, on est dans de l'ultra simple, basé sur la reconnaissance des couleurs. Enfin, pour les enfants, parce que en tant que parent, j'espère que vous gérerez à peu près correctement cet aspect-là du jeu. Et beaucoup d'aléatoires. Bah, en effet, tout va dépendre des couleurs de dés que l'on obtient et dans quel ordre celles-ci sont tirées. Il n'y a donc aucune stratégie et on peut même perdre juste parce que l'on a fait la moitié du boulot pour les autres joueurs, c'est-à-dire placer les lapins dans les terriers alors que les autres n'auront besoin que d'un jet de dés pour les en sortir. Le seul point stratégique que l'on pourrait noter repose sur la face lapin du dé, un peu comme la face panier dans le verger. puisque dans ce cas, on peut choisir de sortir n'importe quel lapin présent dans un terrier. Évidemment, les allergiques au hasard pesteront un peu. Mais rappelons que le jeu est destiné aux enfants les plus jeunes, dès 3 ans, qui n'ont à cet âge pas le même rapport à l'aléa dans le jeu que des adultes rompus au jeu de gestion. Les enfants y trouveront donc de l'amusement, et c'est déjà un très bon critère pour un jeu qui, a priori, leur est quand même destiné. Par ailleurs, Hop Hop Lapin propose 2 variantes qui permettent ainsi de renouveler le jeu lorsque l'enfant en aura fait le tour. Attention alors à être pédagogue pour expliquer le changement de règles, car cela peut susciter quelques incompréhensions de la part des enfants. Des lapins, vous disais-je, mais également des moutons, avec Mouton, un jeu presque coopératif de Isabelle Ravier, Grégory Audebran, Romain Gallonnier et Ronan Audebran, jeu lauréat de la Jam Flip 2016, c'est-à-dire un concours de création de prototypes de jeux de société, se déroulant sous contrainte, en fait une création en 24 heures. Illustré par Pascal Boucher et édité par Robin Red Games, Mouton s'adresse aux enfants à partir de 7 ans, pour 2 à 5 joueurs, et est disponible chez Philibert au prix de 23,95€. La boîte de jeu contient 40 tuiles moutons avec une face colorée, blanc, bleu, jaune, rouge et vert, et une face grise représentant soit le dos d'un mouton, soit le shérif, soit un loup. Certains des moutons sont également représentés avec des attributs comme un chapeau, une moustache, une paire de lunettes, etc. Certaines de ces tuiles moutons incluent également des pelotes de laine. On trouve également 16 tuiles objectifs recto-verso, soit 32 objectifs au total, 5 tuiles bergerie avec un recto enclos et un verso saloon. Chaque bergerie peut accueillir en fait 6 moutons. 26 jetons pelote de laine d'une valeur de 5, 3, 2 ou 1 point. Et enfin, 3 tuiles barrières. Alors le but du jeu, c'est de marquer en 3 manches un maximum de points en remplissant les bergeries de moutons selon les objectifs assignés en début de partie. En début de partie, on va placer une bergerie entre chacun des joueurs. Ainsi, à 3 joueurs, par exemple, on va utiliser 3 bergeries. Une qui sera placée entre le joueur A et le joueur B, une place entre B et C, et enfin, une bergerie entre C et A. On mélange alors les faces colorées visibles, les tuiles moutons, et on attribue à chaque bergerie une tuile objectif. Ces objectifs vont donc indiquer les couleurs et les attributs des moutons qui devront être placés dans la bergerie en particulier. Ainsi, si la tuile objectif indique, par exemple, 3 moutons verts, 2 moutons bleus, 2 paires de lunettes, une moustache et une branche de céleri, Oui, vous avez bien entendu, une branche de céleri. Il conviendra donc de remplir sa bergerie avec 6 moutons qui cumuleront à eux tous les objectifs présents sur la tuile. Ainsi, un mouton vert avec une paire de lunettes remplira 2 objectifs. Mais je vous l'ai dit, le jeu est semi-coopératif parce que les bergeries peuvent être en fait remplies par les 2 joueurs entre lesquels elles se trouvent. Attention donc à ne pas trop se marcher sur les sabots. Le choix des moutons à placer dans les bergeries doit se faire avec une seule main. Et on a toujours le droit de regarder le verso des tuiles, c'est-à-dire la face grise. La manche va se terminer lorsque toutes les tuiles barrières ont été utilisées pour fermer une bergerie. À 3 joueurs, évidemment, on aura 2 tuiles de barrière. Il y a donc une bergerie qui, en fin de partie, ne sera pas complète. On regarde donc si tous les objectifs de bergerie sont remplis, et on score bien sûr si on a réussi ses objectifs, mais aussi en fonction du nombre de moutons avec des pelotes de laine que l'on aura réussi à placer dans la bergerie. Les pelotes de laine, en fait, accordent des points bonus. Mais, toutefois, pour que l'on puisse marquer les 10 points, pas les 10, le chiffre, hein, mais les 10 LESDITS, donc les 10 points, enfin bref, vous m'avez compris, il y a une autre condition à respecter. Et l'on va alors s'intéresser au verso des tuiles moutons. En effet, celles-ci peuvent représenter, comme je vous l'ai expliqué, soit le dos des moutons, tout simplement, soit un shérif, qui est un petit chien en réalité, soit un loup. Si le nombre de versos shérif excède le nombre de versos loup, on peut alors compter ses points. La bergerie est bien complète. En revanche, si le nombre de versos loup est supérieur, alors la bergerie ne rapportera aucun point. Mais évidemment, le loup aura mangé tous les moutons. Cet aspect du jeu n'est pas du tout aléatoire puisque l'on peut toujours regarder le verso d'une tuile lorsqu'on la pioche et on peut également choisir de retirer une tuile de la bergerie si l'on estime qu'on en a trop de loup par rapport au nombre de shérifs. Mouton est donc un jeu d'observation, et pour bien remplir les objectifs assignés aux bergeries. mais aussi un jeu de rapidité, si l'on veut fermer rapidement ses bergeries pour marquer un maximum de points. Mais aussi un jeu de communication, puisque l'on partage ses bergeries avec ses adversaires, ce qui implique un minimum de discuter. On s'y amuse beaucoup, quel que soit l'âge, car on a souvent des surprises en fin de manche. Ouais, oui, on pense qu'on a bien rempli ses objectifs, et en fait, pas du tout. Quant aux illustrations, elles sont tout à fait dans le ton du jeu, avec une petite dose d'humour parfaitement adaptée à ce type de jeu. D'ailleurs, il existe de nombreuses tuiles goodies qui étaient disponibles lors du financement participatif du jeu, avec des petits clins d'œil. Ainsi, moi, j'ai un petit faible pour la tuile de mouton John McClane, ce qui m'a beaucoup fait rire. À deux joueurs, le jeu va revêt une forme purement compétitive, puisque l'on ne partage plus les bergeries avec son adversaire, mais on doit chacun en remplir deux. Le jeu perd alors un peu de son aspect communication et de tous les quiproquos qui peuvent en découler, et qui font aussi le sel du jeu, mais ça reste tout à fait plaisant. Mouton est donc un très bon jeu, très amusant, avec beaucoup de retournements de situation. Enfants comme adultes y trouvent leur compte, et le côté semi-coopératif est très intéressant, parce qu'il peut aussi inciter à se faire des coups vaches ou moutons. Ainsi, on peut avoir intérêt à saboter sa bergerie commune avec un joueur si on est sûr de marquer un maximum de points avec son autre bergerie. Voilà, c'est tout pour cette chronique. Le mois prochain, nous ferons un peu d'entomologie dans les jeux de société. Et d'ici là, jouez bien, surtout avec vos enfants.
Alors, un jeu où il faut sortir les lapins de leur terrier,
oui.
C'est sympa ça, pour choper les œufs.
Mais écoute, c'est vrai que nous en France, c'est les cloches, mais dans les pays anglo-saxons, c'est les lapins qui apportent...
En Alsace aussi, c'est le. En fait, c'est même pas le lapin, c'est le lièvre de Pâques.
Ouais. Mais donc le lièvre, comme un peu dans Alice au pays des merveilles, le lièvre de Mars. Mm. Et c'est vrai que nous, c'est les œufs, ce qui est les cloches qui apportent les œufs, ce qui est totalement. Bon, déjà les lapins,
c'est tout aussi improbable que les lapins. Faut dire.
Un lapin, ça existe en vrai, une cloche qui vole toute seule dans le ciel. Bon. Franchement,
ouais.
D'ailleurs, moi, ça me perturbait un peu quand j'étais enfant, hein, parce que j'avoue que j'étais moyennement, j'y croyais moyennement aux cloches. Ouais. Je me disais, si elles volent trop près du soleil, le chocolat va fondre, c'est une catastrophe. Donc, et oui, donc dans Hop Hop Lapin, on doit sortir. Enfin, en gros, c'est des lapins dans leur terrier. Il pleut beaucoup, c'est l'inondation, donc il faut les aider à sortir du terrier. Donc, tu les aides à sortir du terrier, mm-hmm. Et voilà. C'est un jeu d'un jeune auteur mais peu connu qui s'appelle Rainer Knizia. Donc on peut pas dire que c'est un jeu, enfin c'est forcément un bon jeu du coup. Non, c'est un jeu qui est très bien pour les petits, vraiment tout petits. Alors, pour les parents, c'est pas l'extase non plus. Mmh. Ça fait partie de ce jeu qui pour un enfant est très bien parce que ça repose sur des choses très simples. Et les enfants se posent beaucoup moins de questions que nous sur est-ce que la mécanique, est-ce que si, est-ce qu'il n'y a pas d'aléatoire. Enfin, c'est vrai. Hein,
est-ce que les lapins pondent des œufs?
Voilà, non. Les enfants, ils trouvent ça très cool de mettre le lapin dans le terrier en 3D, de la rattraper, de lancer le dé.
Et donc, un jeu de moutons,
oui.
Mais qui n'est pas un jeu de placement.
Non.
Parce que moi, on me balance tous les jeux de moutons. Mais moi, à la base, ce que j'aimais bien dans les jeux de moutons, c'est que c'était souvent des jeux de placement. Mmh. Mais de plus en plus, les moutons sont utilisés, mais hors des jeux de placement. Ça, c'est un peu bizarre quand même.
Bah écoute, c'est vrai
que moi
j'étais vraiment contente de trouver un jeu qui te ferait un petit clin d'œil. Hein, mais je...
Non, mais j'apprécie, et je testerai. Je l'ai pas encore. Je l'avais vu sortir celui-là à la jam du flip. Mmh. On m'en avait déjà parlé à l'époque, mais j'ai pas encore eu le temps de tester. Et ça a l'air sympa quand même de ranger des moutons.
Ouais, ouais. Puis ce qui est vraiment original, c'est que t'as ce côté semi-coopératif, c'est-à-dire que vraiment, pour le coup, bah là, c'est aussi un jeu de communication parce que t'es obligé quand même de te caler un peu avec celui avec lequel le joueur avec lequel tu remplis telle bergerie. Donc en plus, tu le fais avec les toutes. Enfin, t'as forcément deux. Deux joueurs avec lesquels ça va être ça. Donc c'est assez marrant parce que faut aussi penser ce que tu fais d'une bergerie à une autre. Franchement, à chaque fois, tu crois que t'as bien rempli tes objectifs. Et quand tu regardes, tu te fais, mais non, mais en fait, il me fallait un brin de céleri, il me fallait une moustache. Et non, pas du tout. Il me fallait trois bleus, j'en ai que deux. J'ai foutu un jaune, ça ne sert à rien. Donc tu penses que ça va être tout... quand tu lis au départ tu te dis fastoche quoi, c'est finger in the nose, et puis après quand tu déroules tu fais ah ouais non mais pas du tout, donc Donc c'est hyper sympa. Et puis bah moi je l'avais j'avais participé au financement sur Ulule ou Ululé, je ne sais jamais comment on dit. Mmh. Et du coup j'avais pris avec les goodies, donc j'ai des petites tuiles en plus assez marrantes, j'avais eu la petite peluche que j'avais offert à ma fille, elle était ravie, voilà, et donc j'avais trouvé ça vraiment, le jeu était vraiment hyper cool, très bien et parfait pour jouer en famille, tu rigoles bien, et même à deux hein, c'est très bien, moi on y a joué aussi à deux, c'est, bah, bon là tu joues chacun de ton côté, mais tu remplis ta bergerie tout seul, forcément, c'est pas mal, hein, parce que là, t'as vraiment l'effet du temps, enfin, de la rapidité qui s'exerce.
Ouais, on testera ça à l'occasion. Mm-hmm. Et on va partir après les enfants, on va partir en Ludo Incognito avec Acariatre et sa chronique philosophique. On l'écoute tout de suite.
Ludo Incognito, à la découverte de la faune ludique.
J'ai hâte de quitter ce monde gris, pour retourner enfin dans la jungle luxuriante de Ludin Incognita. Mais mon départ est suspendu à l'autorisation du Conseil des Sages. Il y a un mois, ils m'ont ordonné de venir aujourd'hui leur présenter mon projet de voyage. Ils veulent comprendre les raisons de ma fascination pour le jeu, avant de me laisser repartir. Dans son livre « Le jeu » de Pascal A. Schiller, Colas Duflot tente de déceler le moment de l'histoire où le jeu est passé de sujet insignifiant et puéril à un objet enfin digne d'étude et de réflexion. À ses yeux, le philosophe allemand Schiller, dans ses « Lettres sur l'éducation esthétique de l'homme », publié en 1795, en est le principal responsable. Schiller, dans les pas de Kant, identifie deux tendances a priori irréconciliables chez la femme et chez l'homme. Sa nature sensible, animale, d'une part, et sa nature consciente, morale, d'autre part. Esclaves de ces deux pulsions, tantôt gouvernées par leur instinct et tantôt freinées par leur esprit, la femme et l'homme restent malheureusement incomplets. Pour résoudre cela, Schiller introduit la nécessité d'une troisième tendance qui dépasse et réconcilie cette dualité. Il la nomme « tendance au jeu ». Il ne parle pas en réalité d'un jeu en particulier, ou même du jeu tel que on l'entend d'habitude. Il utilise plutôt ce mot pour signifier une liberté prise face à la réalité. En effet, c'est seulement en se libérant des contraintes de ces deux tendances que l'humain se met en situation d'éprouver l'harmonie esthétique présente dans la nature et dans l'art. Cette harmonie qui réconcilie la forme et le fond, l'émotion et la raison, sa part animale et sa part morale. Cette idée de jeu comme une prise de recul sur la réalité, nous l'avons déjà croisée à maintes reprises au sein de Ludin Incognita. Henriot, Huizinga et Kaiwa en font également la force et le mystère du jeu. Mais en relisant Schiller, on comprend que le ludique est plus qu'une prise de recul. Le jeu est en fait la réconciliation des pulsions humaines. En effet, le jeu, on le sait, crée son espace dédié. À la fois libéré des contraintes du réel et régenté par de nouvelles lois qui lui sont propres. Cette association de liberté et de règles génère un mouvement d'action et de raison hors du temps et hors du monde. Le jeu, chez Schiller, permet ainsi le choc esthétique, un moment d'exaltation et de plénitude, un aboutissement. Bonjour Ludo, explique-nous pour de bon ce qui te fascine autant dans le jeu. Je vais vous répondre par une question. Les émotions seules peuvent-elles nous satisfaire? Non, bien sûr. Elles sont essentielles à la vie, mais ne la gouvernent pas. Nous sommes, je te le rappelle, doués de raison. En effet. Mais la raison seule, à son tour, peut-elle nous satisfaire et nous rendre pleinement vivants? Non plus. Nous ne sommes pas faits que de penser. Exactement. Voilà notre triste condition. Moitié animal, moitié conscience morale. Moitié émotion, moitié raison. Moitié règle, moitié liberté. Nous vivons écartelés sous le poids de nos pulsions contraires. Merci. Nous voilà bien avancés. Mais j'ai la solution. C'est le jeu, bien sûr. Je dois bien avouer que le jeu auquel se réfère Schiller semble bien éloigné de notre pratique ludique quotidienne, bien plus concrète et humble que ce jeu idéal et esthétique. Pourtant, même s'il ne parle pas de nos jeux, Schiller met en lumière le pouvoir du ludique. Introduire du jeu permet en effet de dépasser les contraintes naturelles et morales de la réalité. Prenons un exemple éloigné de nos plateaux. Imaginez, vous êtes en train de savourer votre plat préféré sous un doux soleil de printemps. Un moment d'intense satisfaction. Mais si vous laissez parler votre côté animal, vous ne faites qu'une bouchée de ce plat, le transformant en un mouvement bestial et fugace, immédiatement suivi d'une frustration vive. Si au contraire vous lâchez la bride à votre conscience, vous en oubliez de manger. la futilité de ce moment vous culpabilise et votre condition animale vous fait horreur. Alors que faire ? Pour apprécier pleinement la beauté et la saveur de ce moment, il vous reste la possibilité d'en jouer. Vous faites une pause entre deux bouchées pour contempler et amuser votre propre appétit. Vous alternez les bouchées, un coup de fourchette, une gorgée de votre boisson. Vous trichez bien sûr. En instaurant votre propre règle, vous vous libérez de vos deux natures contraires. Ce qui est vrai pour une action aussi matérielle et utilitaire que l'alimentation, l'est en fait pour toute action humaine. Ainsi, une contrariété de la vie courante, une fois relue par le prisme ludique, se transforme en fou rire. Un poids se retrouve transformé en vitalité jouissive. Le travail, les obligations sociales, le sexe, bien sûr, profitent également d'une posture ludique. Ce n'est là que ma propre interprétation prosaïque de ce que cherche à nous dire Schiller. Mais n'est-ce pas là une très séduisante résolution du mystère du jeu ? Le jeu, en effet, n'est pas négation ou moquerie de la vie. Il en est la synthèse libérée, car il se place adroitement sur un autre plan que nos conflits existentiels. Il ne nie pas le poids de l'existence, il le contemple et il s'en nourrit. La vie n'est certes pas un jeu, mais le jeu seul nous permet de l'apprécier pleinement, associant enfin l'essence et le sens. Ou comme disait Schiller, l'homme ne joue que là où il est homme, et il n'est tout à fait homme que là où il joue. Diantre, si avec un tel discours je ne gagne pas mon passeport pour Ludin Incognita, c'est à n'y rien comprendre. On se retrouve donc là-bas, dans un mois, et d'ici là, jouez bien.
Merci Acariate pour cette chronique. Donc, l'homme ne joue que là où il est homme, et il n'est tout à fait homme que là où il joue. C'est bien écrit ça quand même.
Ouais. Oui,
de Schiller.
Oui, donc bah oui, Acariate revient un peu sur Schiller dont il parlait déjà le mois dernier.
Ouais.
Et sur qui a vraiment eu, bon, lui, une philosophie qui est centrée sur le jeu, vraiment un ouvrage dont c'est la thématique centrale. Et ce qu'on voit déjà, enfin, avec la chronique déjà du mois dernier, mais toutes les chroniques et un café à Acariate, il y a quand même ce qui ressort, c'est vraiment le jeu comme absence de contrainte, par un peu opposition à d'autres moments de la vie. Quand on parle d'état de plénitude, de liberté, parce que finalement, dans les jeux, même alors dans le jeu qui nous intéresse, nous, le jeu de société, par exemple, il y a beaucoup de règles, donc on pourrait penser que c'est contraire. Enfin, c'est une contrainte. Les règles sont une contrainte aussi pour le joueur, mais comme ce sont des règles qu'on accepte, puisqu'on accepte de jouer, de se mettre dans cette posture-là, à partir du moment où les règles sont complètement acceptées, finalement, elles me paraissent sûrement moins contraignantes à l'homme. Et donc, ce qui est aussi intéressant, c'est quand il parle des jeux physiques et des jeux esthétiques. Il y a cette dimension aussi de, puisque effectivement dans la nature, il n'y a pas que l'homme qui joue, hein, donc l'animal joue aussi, mais qu'on n'est pas exactement dans le même degré de jeu et dans la même posture, en tout cas intellectuelle. Donc c'est vraiment intéressant, puisque finalement on comprend que le jeu est une sorte de guide d'évolution de l'homme, bah, pour passer de l'état où il voit ce qu'il dit, hein, où il va subir la nature, pour ensuite au contraire la dominer. Donc on passe vraiment de la nature à la culture, et du coup ça rejoint un peu aussi le pourquoi le jeu est un élément de la culture, au même titre que d'autres inventions humaines finalement, parce qu'en principe la culture c'est aussi tout ce qui n'est pas trouvable en tant que tel. Le jeu dans sa forme la plus... Enfin bien sûr le jeu existe presque naturellement, peut-être chez les animaux, etc. Mais il y a quand même l'idée que le jeu dont on parle, il est de plus en plus élaboré. Donc il est bien la production d'une culture, d'une culture au sens dans lequel on l'entend communément, mais plutôt au sens de tout ce qui est l'inventivité, la création humaine.
Ouais.
Donc ça milite une fois de plus pour notre activité, notre passion du jeu. Enfin, c'est voilà de replacer le jeu à sa juste place dans la société et pas comme un truc de geek,
activité
de geek, hein, parce que
d'enfant
geek, ce qu'on entend souvent, et je pense qu'il est de moins en moins vrai et qu'il tendra de plus en plus à se démocratiser ou en tout cas à s'ouvrir à tous.
Ouais. Bon, oui, je pense que tout le monde peut jouer, c'est l'investissement. Enfin, après, il y a certains pour qui le jeu de société, les jeux de gestion, il y en a qui s'amusent avec ça, et pour que d'autres, c'est juste une contrainte, le fait de devoir réfléchir lors du jeu, pour certains, c'est juste, ils voient juste les contraintes et c'est pas vraiment un jeu, alors que d'autres verront le jeu dans un jeu de gestion, ils s'amuseront, et d'autres s'amuseront plus dans un party game où tu es plus libre, il y a moins de règles et tu es plus libre et tu peux plus te lâcher artistiquement et oralement dans d'autres jeux. Après
je pense que le type de jeu qui te correspond le mieux, c'est vrai que ça va c'est un peu ou pas, tu vas retrouver dans d'autres, même dans le jeu vidéo tout le monde n'aime pas les mêmes types de jeux, ça va dépendre de la personnalité, des goûts propres, mais je pense que de façon générale n'importe qui en soi a envie de jouer, et je pense que c'est vraiment une question de d'évolution des mœurs qui font que je pense qu'il y a des tas de gens qui viennent aussi au jeu. Enfin, moi, si je prends l'exemple de mes parents, ma mère, elle jouait pas du tout aux jeux vidéo, ça lui serait jamais venu à l'esprit. Puis un jour, on lui a mis la console, on lui a dit, tiens, essaye. Alors, c'est des jeux, Et au final, elle adorait jouer au Mahjong. Enfin, c'est très bête, mais je pense que c'est juste parce qu'il y a un moment où avant, on franchissait pas forcément le pas. Si tu donnes l'opportunité aux gens de jouer, en fait, tout le monde est très content de jouer. Après, c'est pas les mêmes jeux, c'est pas les mêmes mécaniques qui vont plaire à tous. Mais je pense que c'est plutôt une question de franchir le pas en réalité. Mais en soi, l'être humain aime jouer, c'est obligatoire, puisque c'est vraiment, comme c'est effectivement un sentiment, et c'est les choses auxquelles tu adhères et que tu fais volontairement. Donc, à moins d'être complètement masochiste, et d'aimer ne faire que des trucs chiants et souffrir.
Voilà, ça apporte quand même des sensations qui sont plaisantes, donc pourquoi s'en priver
Et en plus, quand tu réfléchis bien, jouer en soi est totalement inutile. Ça ne produit rien, et souvent les choses les plus inutiles sont les plus intéressantes.
C'est ce qu'on disait avant avec les jeux pour portable, ça sert à rien, mais pourtant on joue quand même.
Donc finalement, comme c'est totalement inutile, c'est peut-être indispensable, ça fait peut-être partie des choses indispensables, mais c'est vrai, après tout on y trouve aussi son compte. Bon, après, ce qui est le jeu de portable, c'est parce qu'on a dans l'idée qu'on peut toujours trouver mieux. Après tout, si on aime jouer Candy Crush sur son téléphone, bon, c'est peut-être mieux que de pas c'est peut-être mieux que de pas jouer du tout finalement.
Donc moralité de cet épisode, il faut jouer
et jouer bien.
Et jouez, voilà. Et donc, que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-nous le savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i et jeu avec un x. Vous y trouverez toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Vous pouvez également nous contacter sur Twitter, sur Facebook, par mail et dans les commentaires du billet.
Et bien sûr, notez-nous sur iTunes, mettez-nous des commentaires. Et surtout, parlez de nous autour de vous.
Nous, on se retrouve le mois prochain. Et en attendant,
jouez bien.